non-lieu de mémoire.
C'est pas simple d'écrire une chaîne. Et c'est triste, c'est triste.
Là, je mettrais plus les pieds dans cette tôle, là.
Pas de raison aujourd'hui.
J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal au nez. Ça aussi, c'est la chaîne de...
Parce que ces trois personnes qui m'ont convoqué à 4h15, comme je vous ai dit le matin, m'ont froidement dit que c'était fini et puis que j'avais plus besoin de moi.
Mon lieu de mémoire.
Je rentre à la maison, j'ai réveillé mon mari qui était là. Je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Et puis je suis redescendue, puis j'ai fait le ménage. J'ai fait les enfants. Et puis tout d'un coup, je me suis arrêtée, puis je me suis mise à pleurer. Voilà.
Ainsi, malgré nos efforts, nous n'avons pu trouver aucune lumière travaillant actuellement dans l'horlogerie genevoise qui accepte de témoigner.
Et puis bon, ben, de temps en temps, ben, si je veux me payer quelque chose, un petit supplément, ben, je bosse le soir. Je rebosse après le boulot de l'usine.
Je suis trop fatiguée le soir. J'ai une immense fatigue intérieure. J'ai même pas le courage. Le matin, des fois, je me lève, je me dis, oh ben mince, il faut retourner au boulot. Je suis déjà fatiguée avant de sortir du lit. J'arrive pas à me reposer complètement.
Je suis au montage de commandes. Je suis assise dans la machine. Puis à ma gauche, j'ai les collants. C'est déjà fait. C'est la jambe. C'est une jambe et l'autre jambe. Fait.
Moi maintenant, je ne peux plus y aller. J'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté. C'est la peur d'y aller. La peur qui mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet.
Non lieu de mémoire.
La direction chez nous a dit non. Interdiction de venir filmer, de venir prendre quoi que ce soit.
On filmera.
Quoi que ce soit ici.
Personne. C'est un reportage sur l'ensemble du quartier
de Charmilles.
C'est
la moindre des choses, c'est d'avertir les gens. Vous êtes sur un site de propriété privée, un site qui a des dangers.
Oui, bon, on va pas polémiquer. C'est un parc. Là, normalement, on est sur un parc public vendu depuis 2003.
Non,
bon,
non,
là,
c'est pas vrai. Je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite.
C'est privé. Depuis quand c'est public?
C'est une promesse qui avait été faite à la télévision. Donc, on a bien compris,
on
n'a pas demandé d'autorisation,
voilà. Il y a
des collègues
de chez vous qui sont bien au courant parce qu'ils ont déjà eu des problèmes.
Oui, on en a déjà parlé, mais c'est pas grave, il n'y a rien de nuisible.
Vous êtes rentré par où?
Mais on peut rentrer par où? Par partout.
Vous sautez la clôture?
À l'époque où il y avait le stade, vous croyez quoi? Les gamins du quartier rentraient ici, sont payés aussi, c'est pas grave. On ne va pas en faire toute une montagne.
Je regrette s'il y a un accident, c'est nous qui sommes responsables.
Il n'y a pas d'accident pour le moment, non, on mais s'en va, il ne s'est rien passé.
Je regrette, c'est inadmissible ce que vous faites sans vous annoncer. C'est comme ça, vous. Je peux avoir une carte s'il vous plaît de chez vous?
Non,
je peux avoir une carte s'il vous plaît de chez vous?
On n'a rien, on ne vient pas.
On va téléphoner aussi.
Moi, gros nom et tout.
Nous, on ne sait pas qui vous êtes non plus.
Ouais, c'est vrai.
Je suis le responsable technique du.
Oui,
le stade que le Servette Football Club possède au Charmy peut accueillir quelques 32 000 spectateurs qui trouvent à se loger dans la tribune couverte située en bordure du chemin des sports et abritant 2200 places assises ainsi que sur les talus en gradin, lesquels cernent le terrain sur ses trois autres côtés, soit Voie Ferrée, Usine Tavaro et Avenue de Châtelaine. Aujourd'hui, première étape des travaux qui vont être entrepris incessamment, on va transformer en gradin étagé et également retenu par des contre-marches le talus ci en bordure de l'avenue de Châtelaine. Pour cela, il va falloir amener sur place une quantité assez considérable de matériaux provenant de démolition et de la terre aussi, pour augmenter tout d'abord le volume de ces remblais qui, une fois terminé, comportera quelques 2300 mètres de gradin étagé sur 21 degrés. Il y aura alors place pour 5000 spectateurs, ce qui portera la capacité totale du stade à 37 000 personnes environ.
Qui sont là,
ah ouais.
À gauche et à droite.
Ah, il y avait la moquette.
Non, c'est du tartan. Ah ouais, c'est impressionnant.
Ouais, ça devait être vraiment l'entrée, là, non?
Ah, ouais.
Enfin, je veux dire, le...
Bah, c'est le vestiaire, hein.
Ouais. Ouais. Bon, alors, on va changer, hein.
Attends, on va voir les vestiaires, hein.
On est combien?
C'est quand même un lieu, t'imagines? Là, il y a de la sueur qui a...
Ouais, il y a des achikayaya qui ont été prononcés.
Ouais, ben voilà, ça, c'était donc
les
vestiaires.
Les t-shirts et les chaussettes.
Ah, ouais.
Et ça, c'est des tribunes, tu crois?
Mais c'est ce que je me demande, c'est un peu...
Pour les proches, ou quoi?
Ah oui, ça c'est des loges.
Donc là, on est dans le vestiaire, j'imagine, du Servette ou des visiteurs. Mais il n'y a plus les bancs, il y a encore les...
Mais ça sent la sueur, on ne trouvait pas. Je ne trouvais pas qu'il y ait une odeur comme ça.
Il y a les porte-manteaux qui ont été pillés.
Depuis lundi matin, une pelle mécanique est en action au stade des Charmilles, installée sur le talus côté Tavaro. Pour l'instant, elle se borne à enlever la terre de la butte et à la déverser dans des camions qui se relaient avec une extrême rapidité. On attendait que ces travaux commencent plus tôt, mais des retards imprévisibles sont survenus et ont repoussé de plusieurs semaines l'ouverture de ce nouveau chantier.
Là, on monte.
Oui, il y a un ballon. Vous avez vu le ballon?
C'est vrai?
Ah ouais?
Bah oui, il y a un ballon.
Ah, alors ça, c'est vraiment un vestige vivant, ça.
Ça se trouve, c'est un vrai ballon.
Série.
Ah ouais, ça semble être un vrai ballon.
Ainsi, doté d'une nouvelle et spacieuse tribune, rénovée, le stade du Parc des Sports sera à même d'offrir une large hospitalité aux compétitions qui, en 1954, figureront au rôle de la Coupe du Monde de football.
Bah, on voit un peu que c'est les sièges à faire, là. C'est des sièges en cuir rembourré,
ouais.
Ou en sky, je sais pas. Et donc là, on voit les bâtiments dont on a parlé hier. C'est-à-dire qu'à notre gauche, il y a le bâtiment administratif de Tavaro, là. Okay. Celui qui est tout à gauche, là, rue de Lyon. Et à droite,
l'espace Hippomène.
Au milieu, l'espace Hippomène, et à droite, le bâtiment Pic-Pic. Et...
Mais alors, ce bâtiment Pic-Pic, ils l'ont bien raboté, hein, parce qu'il y avait, avant, il y avait trois ou quatre bâtiments comme ça, tu vois. Et c'est là où on avait trouvé les chaussettes et les coupes du Servette, les t-shirts, tout ça.
Le premier bâtiment qui reste encore va être détruit.
Le grand, là?
Non, il est en deux parties. Il y a la seconde partie qu'on voit qui est un petit peu plus blanche. Ça va être gardé tel quel. Et la première partie va être détruite, mais reconstruite au même gabarit.
Et ce sera des lofts.
Voilà.
Ouais. La cité-jardin Pic-Pic. À une époque où les rapports du capital bourgeois et du travail ouvrier sont trop souvent envenimés avec perfidie, il est utile de signaler la magnifique initiative prise par la société anonyme des ateliers Picard, Pictet et compagnie à Genève, en vue de constituer, afin d'améliorer les conditions matérielles et morales d'existence de son personnel, une grande cité-jardin. Un concours d'idées a été ouvert à cet effet, il y a 6 mois, réservé aux seuls architectes suisses, et pourvu de 25 000 francs de récompense. On vient de le juger. Ce sont Monsieur Rittmeyer et Führer de Winterthur qui ont emporté le premier prix, et les divers projets concurrents sont exposés au palais électoral. C'est là un événement d'ordre esthétique et social, d'une envergure et d'une nouveauté exceptionnelle pour notre pays.
Ah oui,
ça,
bah vous
voyez... la salle du speaker officiel.
Ah ouais, clairement, parce que on est dans un... Il y a des machins en bois d'insonorisation.
Ouais.
Ah ouais, c'est clair.
Mr. Sinalco.
Oui.
Vous voulez nous rappeler...
Des faits marquants de l'histoire du Servette?
Ouais.
Bah, je rappellerai que le titre de 1999, quand ils ont réussi à mettre 5-0 Neuchâtel Xamax à domicile et du coup à devenir champion, notamment grâce à Goran Obradovic,
ah, oui,
qui est maintenant le meneur de jeu du FC Sion, toujours en activité.
Est-ce qu'on descendrait sur la pelouse? Enfin, le terme est un peu excessif parce que...
Ouais, c'est plutôt terrain vague, gravier.
Ouais. Là, Mr. Sinalco est en train d'herboriser.
Non, je cueille du fucilage.
Ouais, bah vous herborisez, c'est bien ce que je dis.
Aujourd'hui, un peu plus de 1000 personnes sont occupées par la SUP, qui, en 1952, a payé pour 9 millions de salaires à Genève. Les 90% de la production sont destinés à l'exportation. Actuellement, la fabrication comprend les machines à pointer, qui sont des machines-outils permettant divers travaux d'usinage et qui sont caractérisées par le fait qu'elles incorporent des dispositifs de mesure au moyen desquels les déplacements peuvent être réglés avec une précision de quelques millièmes de millimètre. Viennent ensuite les machines à diviser qui tracent automatiquement des traits régulièrement et exactement espacés sur des règles binaires ou des cercles puis des machines à mesurer grâce auxquelles les dimensions des pièces d'outillage ou de fabrication peuvent être déterminées avec une précision de millièmes de millimètre. Enfin, les projecteurs à profil, qui sont des appareils optiques qui permettent de contrôler exactement la forme d'une pièce par comparaison de son profil, projeté avec un fort grossissement sur un écran avec un dessin type. Monsieur Maurice, ayant d'abord fait l'historique de la maison, nous avons visité les ateliers construits il y a 30 ans à l'avenue de Châtelaine, qui renforcent les machines pour l'usinage des grosses pièces, qui travaillent avec une précision de quelques centièmes de millimètre.
Donc là, on est...
De 43 avenue de Châtelaine.
Voilà. Et on est face au site de la CIP des Charmies. Donc la CIP, c'est la Société Genevoise d'Instruments de Physique. C'est une société qui est fondée à la fin du 19e et qui fabrique pas des instruments de physique.
Oui, justement, je me demandais ce qu'ils fabriquaient. Toi, bah, tu sais.
Au début, ils fabriquent un peu des instruments de physique. Ça veut dire ils fabriquent des prismes, ils fabriquent des thermomètres, des machins comme ça.
Des appareils de mesure.
Voilà, des appareils de mesure. Et puis, assez rapidement, ils se spécialisent dans la mécanique de précision. Et ils vont développer des machines qui sont capables de découper découper le métal.
Ouais, bah fais attention que le camion ne te découpe pas à ton tour.
De découper le métal avec de plus en plus de précision, et ils vont arriver à des précisions de l'ordre du micron, ce qui va être après, tu sais ça mieux que moi, le standard.
Ouais. En matière de micromécanique, ouais. Voilà. De mécanique donc, de précision.
Nous avons assisté à des opérations de grattage à la main avec une précision de 3 millièmes de millimètre, travail effectué par des ouvriers qui ont vraiment l'amour du métier. Dans une autre halle, des menuisiers procèdent au montage de coffres géants qui transporteront ces machines de haute précision jusqu'aux Indes et aux États-Unis.
Ils ont en fait un double besoin au milieu du 20e siècle. C'est à la fois de préparer des éléments de ces machines qui sont extrêmement précis et en même temps de faire des bâtis pour ces machines qui sont des trucs très lourds.
Ouais, souvent en fonte.
Voilà. Et ça devient... À l'époque, ils sont à Plein Palais, à la Jonction. C'est ce qu'on connaît le mieux de la CIP, qui est maintenant le Musée d'Art Moderne.
Ouais, nos invités, surtout, voilà. De temps en temps.
Et ça devient impossible, parce que l'aspect fonderie et construction des bâtis devient incompatible avec la précision qu'il faut dans la préparation du reste des pièces de ces machines. Alors, ils décident de s'installer là où on est maintenant et de transférer toutes les activités lourdes sur ce site ici. Donc le bâtiment qu'on voit à droite là, ouais. C'est de nouveau un de ces bâtiments comme la blanchisserie des épinettes à Shed, hein, ouais. C'est avec ses toits typiques. C'est le premier bâtiment qui est construit avec la halle en bois qui est juste en face de nous.
Et ça c'est dans quelles années ?
Alors ça c'est 1918, donc c'est tout de suite après la
Première Guerre mondiale.
Et ils déplacent toute la partie, parce qu'à l'époque ils font aussi des frigos. Ils vont abandonner après la production des frigos, à ce moment-là, frigidaire. Ils font des frigidaires. Ouais.
Mais c'est pas la marque Frigidaire.
Non, c'est pas la marque Frigidaire, et d'autre part, c'est pas des frigos individuels, c'est des frigos collectifs.
Ouais.
Donc c'est des chambres froides, en fait.
Ouais, c'est pour l'agriculture.
Pour l'agriculture, et puis pour ces trucs que tu trouves encore à l'époque, et puis que tu vas trouver encore jusqu'à la Fordisation du réfrigérateur, c'est des chambres froides collectives où tu loues un espace dans la chambre froide pour tes trucs, quoi.
Donc ça c'est le premier bâtiment qu'ils ont construit.
Voilà. Alors ben là maintenant il est utilisé par des artisans et puis par les bibliobus.
Oui, parce qu'il y a des locaux de la ville, puisque le site appartient toujours à la ville de Genève. D'ailleurs ouais. C'est bien signifié à l'entrée.
Après de nombreuses tergiversations, le dossier du rachat des anciens terrains de la CIP, Société d'Instruments de Physique à Châtelaine, par la ville de Genève, est enfin parvenu aux conseillers municipaux. Réunis en séance parlementaire ordinaire la semaine prochaine, ceux-ci devront se prononcer sur l'ouverture d'un crédit de près de 15 millions de francs destiné à l'acquisition de la parcelle de 23 000 m2, encore propriété de la société, actuellement établie à Satigny. Il était temps. Les curateurs de la faillite ont exigé que la transaction soit conclue d'ici à fin juin. Le rapport de la commission des finances chargée d'étudier le dossier aura été finalisé en près d'un an. C'est en effet en juin 1996 que le conseil administratif avait proposé aux députés municipaux d'acheter les terrains pour un montant de 15,5 millions de francs. L'objectif de cette opération s'inscrit dans la politique de la ville qui, par l'acquisition de friches industrielles, entend préserver des secteurs secondaires et tertiaires sur son sol en les louant à diverses entreprises. La location du mètre carré dans cette pépinière d'entreprise s'élèverait à 100 francs par an, ce qui impliquerait, si l'on accepte le prix à l'achat de 14,9 millions, un montant non rentabilisable de 5,5 millions. C'est, en d'autres termes, l'effort réel auquel devrait consentir la collectivité publique pour l'encouragement et le maintien de l'activité économique sur son territoire.
Le bâtiment, il a été divisé, mais il semble, d'après les plans qu'on a, qu'au départ, il était, c'était un bâtiment d'un seul tenant. Donc il faut s'imaginer cette halle avec une structure en béton armé, un peu de ferraille, et il faut s'imaginer que c'était une seule halle, quoi.
Ouais. C'est vrai que ça a été redivisé, on peut peut-être rentrer pour voir à quoi ça ressemble. Même vu de l'extérieur, il y a des parpaings. Effectivement, là, les locaux ont été redivisés. Bonjour.
Mais là, on est dans un couloir central et on a une idée de la largeur de la halle. Quoi.
Ouais.
Je sais pas combien elle fait de large, mais c'est énorme.
Ça fait dans les 50 à 60 mètres. Ouais. Mm. Donc là, il y a encore les rails au sol, j'imagine, pour déplacer en tout cas le matériel qui devait arriver, qui devait être vraiment très lourd. Mm. Puis là, ça ponce.
Ouais.
Enfin, plus, mais...
Là, on s'approche du coup du bâtiment où
nous
officions. Et ça, c'est un bâtiment qui a été ajouté en 1950, donc après la Deuxième Guerre mondiale.
C'est très semblable au premier. Hein.
C'était un bâtiment où on faisait de la mécanique et où se tenaient les apprentis. Parce que la CIP donc, avait évidemment des apprentis. Et c'était le bâtiment dit de mécanique et d'apprentissage.
Bah, ça restait un lieu d'apprentissage, ouais. Mais pour les pompiers et pour la protection civile.
Ouais. Tout tient d'un bloc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui produit, par exemple, dans l'infrastructure, qu'est-ce qui produit ces gains de productivité, c'est les machines qu'on fabrique à la CIP.
Ouais.
C'est-à-dire qu'avant, il te faut un ajusteur, c'est-à-dire un type qui revient sur les pièces pour les ajuster pièce à pièce, et puis qui fait que chaque emboîtement est en quelque sorte un modèle unique, parce qu'il est ajusté. Et puis, grâce aux machines qui sont fabriquées à la CIP, eh ben, tu fais de la série. C'est-à-dire que tu programmes ta machine pour qu'elle découpe de telle façon, elle te découpe ta pièce au micron près, et t'as plus de gens qui viennent limer derrière pour que ça entre. Ça entre. Ça puis, entre parce que c'est dessiné par un ingénieur.
Et l'ajusteur, effectivement, ça devient une typologie d'ouvrier qui disparaît dans le monde de la mécanique de précision. Ouais. C'est-à-dire que nous, les profs qu'on avait, par exemple, à l'école, en mécanique de précision, c'était souvent des anciens ajusteurs qui n'avaient plus de raison d'être, en tout cas sur les lieux de production.
Alors là, on est...
Manifestation ouvrière. Les ouvriers et les ouvrières de l'entreprise Tavaro, qui sont en tractation avec la direction pour une augmentation de salaire, ont organisé hier à 17h30 une manifestation. En cortège, ils se rendirent des ateliers à Chantepoulet, en passant par la gare et la rue du Mont-Blanc. De la fenêtre du premier étage du café du Grutli, les représentants de la commission ouvrière et du syndicat, messieurs Tess, Métraillé et Souterre, s'adressèrent aux manifestants, leur donnant connaissance des pourparlers avec la direction et les invitant à reprendre le travail sans se laisser aller à un mouvement inconsidéré. Chez Tavaro, une grève sur le tas. Dans le département mécanique des ateliers Tavaro, une grève de quelques heures a éclaté vendredi. Une partie des ouvriers n'étant pas, comme la majorité, au bénéfice d'un contrat, des promesses leur ayant été faites du paiement d'allocations de fin d'année et un renvoi d'autre part sont les causes de ce conflit. Le travail a repris, la direction ayant accepté de recevoir une délégation. Il faut espérer que ce conflit sera liquidé d'ici à la fin du mois.
Non, Tavaro, il faisait pas du tout des machines à coudre. Tavaro, il faisait des armes.
Oui.
Alors, donc Tavaro, c'était une filiale qui se crée en 34 de Tavan Watch, donc une fabrique d'horlogerie du Jura. Et ils font des fusées d'obus et puis des tubes à canon, différents dispositifs militaires.
Et ça, c'est avant Première Guerre déjà ?
Non, c'est 34, la fondation de la société. Et puis, de 39 à 43, ils livrent les Allemands.
Tiens, c'est étonnant.
N'est-ce pas ?
Étonniche, nein !
Et les États-Unis ne sont pas très contents avec ça, ils le font savoir. Et du coup, les livraisons officielles, en tout cas, cessent. Mais il reste un peu une question de savoir s'il n'y a pas des livraisons officieuses ou détournées qui auraient persisté. En tout cas, ils continuent à fabriquer des armes. Et puis, en 43-44, eh ben, ils se rendent compte que la guerre va finir. Donc, il va falloir se reconvertir.
Ouais.
Et là, ils achètent le brevet d'une machine à coudre. Et ils se reconvertissent dans la machine à coudre. Le bâtiment qui est tout au fond à notre droite,
ouais.
Qui est sur trois, enfin ce qui fait trois étages sur deux étages sur Ré, qui est le premier historiquement, chronologiquement, c'est le bâtiment Pic-Pic. Alors Pic-Pic, c'est les voitures Picard Pictet. Pic-Pic, c'est 1917. Donc c'est la construction du bâtiment démarre en 1917.
Que la marque Pic-Pic, elle a pas,
non, la marque
elle a pas cartonné, on va dire.
Ça n'a pas cartonné, mais il y avait donc ça produisait des voitures Pic-Pic.
Société anonyme des ateliers Picard, Pictet et compagnie, Genève. Coupe de la Gruyère, 6 juillet 1913. Troisième catégorie, premier P Tournier sur Pic-Pic sans soupape en 9 minutes 8 secondes. Quatrième catégorie, premier L Dufour sur Pic-Pic sans soupape en 8 minutes 28 secondes. Deuxième, Monsieur Götz sur Pic-Pic en 8 minutes 30 secondes. Meilleur temps des voitures suisses, premier L Dufour sur Pic-Pic, deuxième M Götz sur Pic-Pic. Aucune voiture d'autre marque n'a fait le parcours en moins de 9 minutes. Prix Challenge offert par Monsieur le Conseiller National Caillé, attribué au meilleur temps de toutes les voitures. B Dufour sur Pic-Pic sans soupape en 8 minutes 28 secondes.
Donc là on remonte.
Et puis toi tu sais un petit peu ce qui concerne...
Non, alors les bâtiments qu'on voit là qui sont à gauche sur l'avenue de Châtelaine quand on va en direction de la ville, c'est effectivement manifestement des bâtiments petite industrie et artisanat, mais je sais pas à quoi ils étaient dévolus précédemment.
Mais tu en sais? Fait, je me rappelle que il y a eu ce scandale il y a quelques années où j'avais découvert dans le lac Léman des fûts de produits toxiques.
Ah, mais ce serait Idéal Chimique.
Non, enfin, c'était non. Pas Idéal Chimique, c'est ceux qui fabriquent maintenant encore, c'est une société qui existe toujours. J'ai le nom au bout de la bouche, comme on dit, et qui fabrique des trains d'atterrissage. Okay. Mais il y a une époque où ils fabriquaient aussi des voitures. Et c'est pas mal d'huile de vidange qui ont été foutues au lac, comme on dit.
Ces derniers temps, les habitants du quartier des Charmilles affirmaient qu'une grande usine allait s'établir dans le quartier. Renseignement pris, il s'agit de la construction de deux usines, sous la raison sociale de Hispano-Suiza Suisse SA Genève. La première, à la route de Lyon, entre le chemin des franchises et les usines Fiat, l'autre à Cointrin. Si aucun coup de pioche n'a encore été donné à l'entreprise des Charmis, les travaux sont fort avancés à Cointrin. Ils sont assumés par des entrepreneurs de la place et le plus grand nombre de chômeurs a été engagé. Par contre, les habitants de l'immeuble situé à l'angle de la route de Lyon et du chemin des franchises ont déjà reçu leur congé. Leurs appartements sont destinés à devenir des bureaux. Les usines occuperont plus de 600 ouvriers, tous des Suisses. Elles fabriqueront toutes pièces mécaniques détachées, machines, moteurs, outillages, exploitation d'ateliers de mécanique de précision, fonderies. Le capital social est de 4 millions. Le conseil d'administration est composé de M. Marc Birkit, le grand constructeur suisse, M. Hermann Dutoit, avocat, et M. Hans Schmocker, directeur général de la maison Tavaro S.A. au Charmis. Industrie d'exportation, Hispano-Suiza S.A. ne manquera pas de jouer son rôle dans notre économie. Saluons la création de ces deux usines avec...
J'aimerais bien interviewer, ils en savent un petit peu plus.
Assez significativement, une partie de ces bâtiments dont on parle sont occupés maintenant par la société Belfort, qui est un des leaders du marché de la dépollution.
Ah bah tiens, ça tombe bien.
Ben oui.
Comme quoi. Tout se recycle.
Alors le labyrinthe, allégé du Minotaure, prit cette forme achevée du silence désigné par l'oubli. Non moins perdus donc étaient ceux que les songes de Minos, concurremment allégés, dirigeaient vers la fatale porte, tant qu'à la fin, le peuple entier disparut. Mais le peuple entier se trouvant dans le labyrinthe, le silence redoubla le silence, l'oubli redoubla l'oubli, et nature fut donnée à l'inextricable. On demandera comment Craton, qui était crétois, put signifier ce qu'il avait oublié lui-même. Et ce seul fait de parler le silence expliquerait qu'on ne l'ait pas entendu. Mais outre cela, il était machiné par le lieu d'où il parlait. En d'autres termes, sa propre parole était inextricable.
La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet.